Radio France Internationale, il est 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Marion et bonjour à tous.
Dans ce journal, le désespoir des Gazaouis.
Désespoir devant l'intensification des opérations israéliennes à Gaza. L'armée dit avoir commencé à s'emparer de vastes zones de l'enclave. Les civils, eux, doivent fuir de nouveau dans des conditions extrêmement difficiles. Reportage RFI en début de journal.
L'économie mondiale qui tremble depuis quelques heures.
Et Donald Trump a dévoilé hier soir des taxes douanières historiques qui s'appliqueront à partir de samedi à quasiment toute la planète. Annonce présentée comme une libération pour l'Amérique. L'addition est astronomique, notamment pour la Chine, dont les produits seront bientôt taxés à 54% aux États-Unis. Les bourses asiatiques dévissent ce matin. La Chine et l'Europe font part de leur colère. On fera le point aussi dans ce journal sur les opérations de secours qui se poursuivent en Birmanie après le séisme. Au Mali, on parle de cet accord entre des djihadistes et les autorités locales de la ville de Bonny. Et puis en France, le Rassemblement national affine sa riposte après la condamnation de Marine Le Pen.
Il est arrivé cette nuit en Hongrie à l'invitation de Viktor Orban.
Comme un pied de nez à la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et qui est pourtant la Hongrie membre du statut de Rome, Benjamin Netanyahou, qui a déclaré hier que l'armée israélienne était en train de morceler la bande de Gaza pour que le Hamas rende, je cite, les otages. L'armée israélienne qui a donc commencé à s'emparer de zones de Gaza en plus des bombardements incessants sur l'enclave palestinienne. Résultat, une population gazaouie désespérée, condamnée à errer dans l'enclave. Rami Al-Megari est allé à la rencontre de ces civils qui fuient la ville de Rafah. Son reportage ce matin avec Sami Boukhelifa à Jérusalem.
Des coups de marteau pour enfoncer des pieux dans le sol sec. Planter sa tente là où c'est possible, au milieu des gravats. Les mains et le visage recouverts de poussière, Riyad et sa famille viennent de quitter Rafah pour Khan Younes. C'est la 9e fois qu'ils sont déplacés de force depuis le début de la guerre.
J'ai le sentiment que cette fois-ci, c'est la fin. Avec le reste de nos proches, on s'est dit adieu. J'ai également appelé mes filles pour leur dire adieu. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors le soir, avant de me coucher, je fais mes adieux à ma femme aussi.
Son épouse, Racha, est éprouvée par le trajet. La famille a fui à pied, le dos écrasé par le poids des matelas et des couvertures.
Nous avons tout accepté. Lorsque notre maison a été bombardée, on s'est dit, ce n'est pas grave, on peut camper sur ces décombres. Après tout, c'est chez nous. La bande de Gaza, c'est notre foyer, notre pays, dévasté et pauvre, mais c'est à nous. Alors qu'ils nous laissent en paix, ils peuvent s'acharner et nous bombarder, on ne quittera pas notre pays.
Israël prévoit de réoccuper un quart de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou plaide pour la mise en œuvre du plan de Donald Trump. Le président américain propose de déplacer les Gazaouis en Égypte et en Jordanie, une tentative de nettoyage ethnique au regard du droit international. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Boukhelifa, Jérusalem.
Et la pression militaire israélienne qui continue de faire des victimes à Gaza. 30 morts hier, dont des enfants. Selon les secours de l'enclave, le Hamas, lui, ne plie pas. Le groupe islamiste palestinien rejette la dernière contre-offre israélienne de trêve et accuse Israël de chercher à faire dérailler tout accord. Et puis cette fois en Syrie, on apprend ce matin que des bombardements israéliens dans la province de Deraa ont fait 9 morts, 9 civils, selon les autorités locales.
Le jour de la renaissance de l'industrie américaine, le jour de la reconquête du destin de l'Amérique.
Un discours plein d'emphase hier de Donald Trump qui fait trembler pour de bon l'économie mondiale. Le président américain annonce donc des droits de douane historiques à quasiment tous les pays de la planète. D'abord une taxe quasi généralisée de 10% à partir de samedi, auxquels s'ajouteront les droits de douane déjà en vigueur, et puis d'autres droits de douane majorés cette fois pour 60 pays présentés comme les pires contrevenants, mesure qui entrera en vigueur le 9 avril. Cela concerne notamment l'Union européenne, mais aussi la Chine. L'addition est astronomique pour Pékin, dont les produits seront bientôt taxés à 54% aux États-Unis, 20% pour l'Union européenne, 26% pour l'Inde. Alors, qu'en pensent les Américains? Ces mesures risquent d'augmenter le coût de la vie sur place. Pourtant, les soutiens de Donald Trump continuent, semble-t-il, de lui faire confiance. Écoutez ce reportage à Jackson, dans l'est du Kentucky, Edouard Maille.
Devant sa maison, Jessica vient de rentrer du travail. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, raconte-t-elle, mais elle ne doute pas de Donald Trump.
Je pense que sur le court terme, les droits de douane pourraient avoir un effet sur le coût de la vie. Mais je suis confiante. Donald Trump est un businessman et il sait ce qu'il fait.
À quelques kilomètres, sur le parking du supermarché, Joe charge ses courses dans sa voiture. Le sexagénaire et soutien de Donald Trump anticipe aussi une montée des prix, mais c'est pour la bonne cause, dit-il.
Les emplois vont revenir aux États-Unis, on aura du travail dans les usines. Car tout est parti à l'étranger, au Canada ou au Mexique, où ils construisent les voitures et nous les envoient ensuite pour nous les vendre. On doit les construire ici et ils fabriqueront leurs voitures et nous, les nôtres.
Mais certains redoutent tout de même les conséquences. Albert, un des rares ici qui n'a pas voté pour Donald Trump, est furieux.
C'est dingue, il va tout gâcher. Il va séparer les pays du monde entier. C'est la chose la plus bête possible.
Albert est certain que Donald Trump ne parviendra pas à recréer les emplois délocalisés, estimant qu'ils sont partis pour de bon. Edouard Mae Jackson dans le Kentucky, RFI.
Et beaucoup de réactions depuis hier. La Chine notamment exhorte les États-Unis à annuler immédiatement ces nouveaux droits de douane. La Chine qui parle d'une offensive protectionniste de la Maison-Blanche qui met en péril le développement économique mondial. Même son de cloche côté européen. La présidente de la Commission estime que les nouveaux droits de douane sont un coup dur pour l'économie mondiale. Ursula von der Leyen affirme ce matin que les Européens sont prêts à réagir. Écoutez.
Depuis le début, nous avons toujours été prêts à négocier avec les États-Unis afin de supprimer les derniers obstacles au commerce transatlantique. En même temps, nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises. Si les négociations échouent.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron, va lui réunir à l'Élysée cet après-midi les représentants des filières concernées par les mesures tarifaires annoncées par les États-Unis. Et puis on va y revenir évidemment juste après ce journal avec Stéphane Genest, aujourd'hui l'économie. Et puis l'invité de la matinale d'RFI, Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. Il sera au micro d'Arnaud Pontus.
En Birmanie, de nombreuses zones sinistrées n'ont toujours pas reçu d'aide de secouristes.
6 jours maintenant après le séisme de vendredi dernier, le bilan officiel fait état de plus de 3000 morts. La junte militaire vient, elle, de déclarer un cessez-le-feu. Bonjour Carole Izou.
Bonjour.
Correspondante régionale d'RFI, Carole, le pays semble s'ouvrir et les convois humanitaires commencent enfin à circuler.
Et oui, grâce à cette annonce qui a été faite donc mercredi 2 avril au soir par un haut gradé à la télévision officielle, un cessez-le-feu provisoire jusqu'au 22 avril entre les soldats de la junte et les armées ethniques ainsi que les groupuscules armés issus de la population civile. Alors immédiatement, cette annonce a été suivie des faits. Des autorisations de circuler ont été délivrées à certaines organisations humanitaires qui étaient restées jusque-là bloquées à l'aéroport de Rangoon. Certaines sont désormais en route vers le nord. C'est une longue route encore qu'il leur reste à faire avant de pouvoir atteindre notamment la ville de Mandalay et les zones concernées. Des visas ont été délivrés. Il semble donc que le pays soit en train de s'ouvrir, que les secouristes vont enfin pouvoir faire leur travail sans prendre le risque d'être la cible de tirs, comme c'est arrivé avant le cessez-le-feu à un convoi de la Croix-Rouge. Bien sûr, beaucoup déplorent que cette ouverture est trop tardive pour permettre véritablement de retrouver des survivants. Mais cela va permettre sans aucun doute d'apporter une aide aux milliers de blessés, de sinistrés qui aujourd'hui vivent dehors, sous des tentes et de juguler aussi peut-être les risques d'épidémie qui sont une des préoccupations majeures des humanitaires à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Carole Izou, correspondante régionale d'RFI en direct avec nous.
RFI 6h09 en temps universel et à Bamako, au Mali, les djihadistes ont levé le blocus imposé depuis près de 2 ans à la ville de Boni.
Et c'est dans la région de Douensa, dans le centre du Mali. Un accord local avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda a été conclu samedi dernier au terme de négociations menées par des notabilités locales avec la médiation de l'association intercommunautaire Happy IDEC et l'implication également de l'État malien. Explication avec David Bachet et Abdoulaye Diko de la rédaction Foulfoul des RFI.
La ville de Boni peut à nouveau être approvisionnée et les véhicules peuvent emprunter la RN16 qui relie Douenza, Boni puis Gao. Plus d'un an de discussions auront été nécessaires. Cet accord doit permettre aux populations de circuler librement et de ne plus subir les violences de la Katiba Serma du Jnim liées à Al-Qaïda, ni les exactions de l'armée et de ses supplétifs de Wagner. Car si les habitants de Boni acceptent de se plier aux règles des djihadistes, application de la charia, port du voile, etc., l'État malien a lui-même fait des concessions de taille. Selon plusieurs sources proches des négociations, y compris sécuritaires maliennes, la sécurité d'État et l'armée ont été associées au processus et accepté de réduire la présence militaire dans la zone. Il n'y a pas le choix, l'État ne parvient pas à sécuriser les habitants, reconnaît une source sécuritaire malienne, non sans amertume. Plusieurs centaines de villages au Mali ont des accords locaux avec les djihadistes, mais une telle implication de l'État n'est pas habituelle. L'ancien Premier ministre Moussa Mara félicite les autorités de la transition qui ont donné leur feu vert à ce dialogue. Le parti ADEMA félicite les médiateurs civils comme militaires ainsi que les autorités de la transition qui ont permis de libérer Boni de façon pacifique.
Et puis toujours au Mali, dans une autre zone, le préfet Dansongo a lui été enlevé hier dans la matinée par des hommes armés. Aucune revendication n'a été émise pour le moment.
En France, le Rassemblement National affine sa riposte.
Après la condamnation de Marine Le Pen, le parti d'extrême droite affirme recevoir de nombreux messages de soutien, revendique 10 000 nouvelles adhésions en une journée, chiffre invérifiable. Mais en tout cas, une opération tractage est prévue samedi et puis dimanche. Autre étape, un rassemblement à Paris, place Vauban, un événement qui pose question à l'Assemblée nationale. Victorien Villaume.
Le meeting de Marine Le Pen pourrait-il dégénérer en Capitol bis quand les partisans de Donald Trump avaient envahi le Congrès ? Le RN tente de déjouer cette petite musique en annonçant par avance un rassemblement apaisé. Le patron du RN, Jordan Bardella.
C'est pas un coup de force, c'est au contraire une défense très claire et très profonde de l'état de droit et de la démocratie française. Et donc ça nous semblait nécessaire que nous puissions nous exprimer directement aux Français par l'intermédiaire de ces discours.
Cette manifestation est contre la justice, rétorque-t-on chez les macronistes. Le député Liot Harold Huard s'inquiète également de cet appel et aime l'idée d'une contre-manifestation.
J'observe d'éventuels appels à manifester pacifiquement, peut-être devant des palais de justice ce week-end pour manifester une forme de soutien aux juges. Moi, je crois qu'il faut réagir. On ne peut pas laisser non plus un parti politique appelé à manifester devant des décisions de justice.
Au sein de la droite républicaine, Philippe Juvin se dit défavorable aux deux initiatives.
Je suis très inquiet par cette société où j'ai l'impression que des millions de gens se mettent à détester d'autres millions de gens. Cessons les affrontements. Il faut refroidir la température qui monte.
Y aura-t-il de toute façon beaucoup de monde dimanche pour soutenir le RN ? Un député du parti se contente de répondre « Dans ma fédération, j'essaye d'affréter des cars ».
Victorien Villaume du service politique d'RFI.
C'était le journal de Jeanne Bartoli. Vous revenez à 8h, temps universel. Pour l'heure, 8h13 à Paris, 6h13 en temps universel. À suivre sur RFI, le grand invité international. On va parler de cette déclaration de guerre commerciale par Donald Trump. Le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane et n'épargne personne. Les pays asiatiques sont particulièrement visés. L'Union européenne aussi. On y revient avec Roland Lescure, député des Français d'Amérique du Nord. Et d'abord, on passe au sport. Avec vous Antoine Grenier, en football, Reims rejoint Paris en finale de la Coupe de France.
Des champenois pour qui la coupe est pleine, et c'est déjà ça, vu leurs difficultés en Ligue 1. Les Rémois vainqueurs 2-1 de l'AS Cannes, pensionnaires de 4e division. Fin du festival pour les Canois qui quittent la coupe avec un immense sentiment de fierté à l'image de leur buteur du soir, l'international sénégalais Cheikh Ndoye.
C'est magnifique devant notre public, malheureusement on perd ce match 2-1. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça, c'est le haut niveau. Aujourd'hui je pense qu'on est tombé sur une bonne équipe de Ligue 1 qui maîtrise bien son système de jeu. Donc voilà, ça s'arrête pour nous, c'est dommage. Félicitations à mes coéquipiers, félicitations au public. Comme je disais à mes coéquipiers, il faut savoir marquer l'histoire d'un club. Aujourd'hui, je pense qu'on a marqué cette génération. On a marqué l'histoire du club. Aujourd'hui, ça s'arrête là pour nous, c'est dommage. Mais après, on va se concentrer sur le championnat.
Cheikh Ndoye chez nos confrères de beIN Sport. La finale de la Coupe de France entre Paris et Reims se jouera le 24 mai au Stade de France.
La Coupe également en Espagne et un classico de plus au programme.
Le Barça rejoint le Real Madrid en finale de cette Coupe du Roi. 11 ans après, les deux équipes se retrouveront donc à ce stade de la compétition grâce au court succès du Barça 1-0 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid avec un but de Ferran Torres. Une demi-retour bien loin de la folie du 4 partout du match aller. Mais l'important, c'est de se qualifier et de se tourner vers la confrontation champ face au meilleur ennemi, estime Jules Koundé, le défenseur barcelonais.
On est encore en lice dans toutes les compétitions et nous sommes désormais en finale de la Coupe du Roi. On pense qu'on peut le faire, qu'on a l'équipe pour y parvenir, à condition de continuer à travailler comme on le fait depuis le début de la saison. Le Classico, c'est toujours un match particulier. Le Real est une équipe très dangereuse. C'est vrai que les deux premiers matchs se sont bien passés pour nous, mais on sait qu'ils vont tout donner. Nous sommes en confiance, nous jouons bien. Bien sûr, les titres sont très importants, mais je pense qu'on doit aussi mettre en avant notre manière de jouer et l'état d'esprit de l'équipe. Nous sommes vraiment un groupe. On l'a encore prouvé aujourd'hui et on le démontre depuis le début de la saison.
Jules Koundé avec Pierre Chaperon, Real Barça en finale de la Coupe. Ce sera le 26 avril au stade olympique de la Cartora à Séville.
En Italie, pas de vainqueur dans le derby milanais en demi-finale de la Coupe.
L'AC Milan et l'Inter se sont quittés sur un partout qui ne rend pas forcément compte de l'intensité de la rencontre. Les Rossoneri avaient pris l'avantage au retour des vestiaires grâce à Tammy Abraham avant que l'Inter n'égalise 20 minutes plus tard par Çalhanoğlu. Tout sera donc à faire le 23 avril pour le match retour.
Et on termine ce tour des stades européens en Angleterre. Antoine, pas de coupe, mais la 30e journée de championnat, Liverpool se rapproche du sacre.
Les Reds, vainqueurs de leur derby face à Everton, 1-0 sur un but de Diogo Jota. Liverpool conserve ainsi 12 points d'avance sur Arsenal à 8 journées de la fin. Le titre n'est pas encore en poche, mais pas très loin. Les incertitudes concerneront donc plutôt les places européennes. 6e à 2 points de Manchester City, 4e Chelsea affronte Tottenham pour passer devant les Citizens. Coup d'envoi à 19h temps universel.
Le journal des sports signé Antoine Grenier. Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marion.
Une montagne de pourcentage fait vaciller le commerce mondial. Le président américain a lancé son offensive hier avec des tarifs douaniers à tout va contre ses amis, ses ennemis. 10% pour tout le monde et parfois plus pour certains comme la Chine, le Vietnam, le Cambodge. Ce matin, Stéphane, on s'intéresse au cas du Brésil. Lui fait partie des chanceux, on va dire, qui n'est concerné que par ces 10%. Et le pays pourrait sortir gagnant de cette guerre commerciale.
Oui, car rappelons que les États-Unis sont les premiers investisseurs dans la plus grande économie d'Amérique latine. Le Brésil est d'ailleurs l'un des plus grands exportateurs de la région. On peut citer notamment le soja, le bœuf, le poulet ou l'acier. Les Américains d'ailleurs en importent beaucoup de cet acier brésilien. Mais la balance commerciale entre les deux pays est excédentaire. Côté américain.
Et ça, c'est un atout pour Brésiliens.
Oui, car Donald Trump, on le voit, vise en priorité les pays qui exportent vers les États-Unis plus qu'ils n'importent. Brasilia peut donc profiter de cette situation. Le président Lula l'a d'ailleurs parfaitement intégré. Il ne veut pas mettre un terme au dialogue avec Washington. La semaine dernière, justement, une mission brésilienne était dans la capitale américaine pour échanger avec l'administration Trump. Ça n'empêche pas le Brésil, pour autant, de répondre avec le vote, il y a quelques heures seulement, par le Parlement d'une loi de riposte aux mesures américaines, mais le gouvernement brésilien a su nouer aussi d'autres partenariats qui lui permettent précisément de ne relativement pas trop souffrir.
Comme par exemple avec la Chine ?
Tout à fait, d'ailleurs Pékin est devenu le premier partenaire commercial du Brésil. Les deux échangent beaucoup, les entreprises brésiliennes exportent du soja, du poulet, du bœuf notamment. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque ça ne vous a pas échappé, la Chine est particulièrement visée par les États-Unis. Pékin, justement, a répondu en augmentant les taxes sur les produits agricoles américains stratégiques comme le soja et la viande. Et donc la Chine peut trouver, Marion, dans le Brésil, une alternative viable pour ses besoins de biens de consommation courante. Les entreprises chinoises, et c'est la contrepartie évidemment, sont présentes sur le sol brésilien et y investissent beaucoup dans la construction d'infrastructures essentielles à l'activité économique comme des routes, des voies ferrées ou encore des ports.
Donc Stéphane, si on comprend bien, cette guerre commerciale Pékin-Washington est une opportunité pour Brasilia.
Oui, si on ne s'en tient qu'au poulet et aux œufs brésiliens, les exportations de ces deux produits vers la Chine, eh bien elles explosent entre 9 et 20% de hausse par rapport à l'an passé. Preuve que la confiance est là, l'indice boursier brésilien, basé principalement sur les matières premières, a progressé de 9% ces dernières semaines. Cela alors que les principaux cours mondiaux, eux, eh bien, ils sont dans le rouge.
Mais cette stratégie n'est pas sans risque.
Vous avez raison, cette conjoncture semble bénéfique à court terme, mais sur un temps plus long, elle expose le Brésil à une forte dépendance à la Chine. Et si les relations sino-américaines s'améliorent, c'est tout l'équilibre qu'on vient d'évoquer qui deviendrait instable. Les autorités brésiliennes jouent ainsi sur plusieurs tableaux. Récemment d'ailleurs, elles ont signé de nouveaux accords avec le Japon ou encore avec les Européens dans le cadre de l'accord Mercosur. Une situation qui permet au pays de renforcer sa position sur la scène commerciale internationale et de stimuler sa croissance économique.
Merci Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie. On parle encore de ces droits de douane américains qui bouleversent le commerce mondial avec notre grand invité international, Arnaud Pontus. Vous recevez Roland Lescure, député Ensemble pour la République des Français d'Amérique du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale.
Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI. Nous voilà fixés. Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde entier. Les droits de douane pleuvent sur les produits importés aux États-Unis. Des dizaines de pays seront visés par des surtaxes. 34% pour la Chine, 24% pour le Japon, 20% pour l'Union européenne. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Ça aurait pu être pire pour nous, Européens?
Non, faut surtout pas relativiser. Aujourd'hui, je pense qu'on se réveille dans un monde différent que celui qu'on a laissé hier, et même si ça pouvait apparaître un peu absurde, mais parfois l'impression d'être au résultat du concours de l'Eurovision avec son immense
avec son panneau
tableau avec tel pays, tel tarif, etc. Avec des pays totalement improbables. Vous avez vu que les tarifs sont différents selon qu'on est en Guadeloupe ou en France. Merci, la Guadeloupe est en France. Mmh. Il a mis des tarifs sur des îles australiennes où il n'y a pas un habitant. Mais c'est du sérieux. Ce qui se passe est extrêmement sérieux. En fait, c'est grave.
C'est une catastrophe, Roland Lescure.
De mon point de vue, c'est une déclaration de guerre industrielle. Au monde entier. On était dans un monde qui était très ouvert, peut-être même un peu trop ouvert. Là, il se referme. Les États-Unis se referment. Et de manière très concrète, d'abord, c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains. Si vous achetez des baskets américains faits au Vietnam, ça coûte $200. C'est cher, déjà. Ça va vous coûter $300. On a près de 50% de hausse des tarifs sur les baskets faits au Vietnam. Vous allez me dire, c'est pas très grave, ça touche les Américains. Mais ça va nous toucher aussi.
Oui. Est-ce que vous êtes inquiet pour les entreprises européennes et les entreprises françaises en particulier, Roland Lescure?
Oui, je pense qu'il faut être inquiet parce que c'est une mauvaise nouvelle. On a un président américain qui a tiré dans tous les sens. Une entreprise française qui produit des médicaments en France et qui exporte aux États-Unis. Vous vous souvenez, on s'est dit, il faut qu'on ait plus de production industrielle de médicaments en France.
Oui, ça c'était l'antienne pendant le Covid.
Oui, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le secteur des médicaments, il exporte aux États-Unis. Hein, on a dit les voitures, on n'exporte pas de voitures françaises aux États-Unis, c'est pas très grave, mais on a des grandes entreprises de pièces détachées automobiles qui travaillent pour des entreprises allemandes qui vont elles aussi être touchées. Donc oui, les voitures américaines vont être plus chères, les baskets américaines vont être plus chères, la nourriture américaine va être plus chère. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les Américains. Ils tirent vraiment dans tous les sens et en passant, ils se tirent une balle dans le pied. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la France, pour l'Europe, pour le monde.
Donc la guerre est déclarée. Donc c'est grave. On connaît maintenant la puissance de feu des Américains, ce qu'ils veulent imposer comme taxe. Comment l'Europe se défend?
Écoutez, lui, il tire dans tous les sens. Moi, je pense qu'il faut qu'on tire là où ça fait mal. Donc, il faut qu'on soit à la fois ambitieux dans la réponse et chirurgical dans les frappes. On a aujourd'hui des secteurs américains qui gagnent énormément d'argent en Europe. Pour simplifier, le secteur financier et le secteur des nouvelles technologies.
Oui.
Quand vous ouvrez votre téléphone, vous faites gagner de l'argent à Apple, à Google, évidemment à Amazon, etc., etc.
Donc on tape les GAFA.
Bien sûr.
On tape. Mais comment on les tape? Comment on les tape?
On avait mis en place en France une taxe particulière. Il faut peut-être la généraliser en Europe. Il faut l'augmenter. Mmh. On peut aussi travailler autour des droits de la propriété intellectuelle. Au fond, si vous voulez être isolé, soyez isolé. Mais dans ce cas-là, nous, on protégera moins les brevets qui viennent des États-Unis que ceux qui viennent d'Europe. Je pense qu'il faut être à la fois inventif, créatif, et pas hésiter à frapper fort.
Ouais.
Parce que, il est américain, et je pense qu'il se croit au Far West, quand quelqu'un rentre dans une table de poker et qu'il met son revolver sur la table, il faut sortir le nôtre. Et il faut être prêt. Alors, la présidente de la Commission européenne dit qu'il est encore temps de négocier.
Temps s'accélère. Les Européens sont prêts à réagir. Ils travaillent déjà à un nouveau paquet de contre-mesures. Au passage, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on savait bien qu'il y avait cette date du 2 avril. Au cas où les négociations échouent. Donc, faut négocier, menacer de taper. Et pourquoi les Européens sont pas déjà prêts, là? Les sanctions
ne vont pas être prêtes. Écoutez, je pense que les mots, j'espère, en tout cas, sont au-delà des axes. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Mmh. Vous le savez, le président de la République a annoncé qu'il recevait aujourd'hui l'ensemble des filières impactées.
Oui.
Et j'imagine qu'il les reçoit à la fois pour les rassurer, pour leur dire qu'on est à leur côté, mais aussi pour commencer à annoncer des mesures qui vont permettre de répondre
Et vous savez si le président a un plan à soumettre à ses homologues européens? Quand il parle des États-Unis, il vous écoute beaucoup. Vous êtes le député français d'Amérique du Nord, vous avez été son ministre. Vous dialoguez de tous ces sujets-là ensemble.
Écoutez, il est tout sauf naïf. Donc oui, je pense qu'il a à la fois un certain nombre d'idées en tête et surtout une capacité... C'est malheureux de le dire comme ça, mais à négocier d'homme à homme avec Donald Trump, c'est le langage.
Ce sont les nouvelles
règles. C'est le langage que comprend Donald Trump. Et c'est important de savoir que, en faisant ça, Donald Trump isole les États-Unis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit se rapprocher de nos partenaires commerciaux. Je vais vous donner un exemple très concret. Ouais. Aujourd'hui, au Canada, il y a plus de 40% des Canadiens qui disent, nous, on aimerait bien entrer dans l'Union européenne. On va peut-être pas aller jusque là. Mais il y a moins d'un an, il y a un certain nombre de sénateurs français qui ont refusé la ratification du CETA, ce fameux traité de libre-échange, oui, qui est un traité gagnant-gagnant, qui est même plus gagnant pour l'Europe et la France que pour le Canada. Ratifions-le. Posons très vite des gestes politiques qui montrent qu'on est capable de se rassembler avec les démocraties libérales occidentales qui sont vraiment ouvertes, avec nos alliés, avec ceux avec lesquels on a intérêt à montrer aux États-Unis qu'on est aussi fort qu'eux, parce qu'on est aussi fort qu'eux.
Bon, vous dites, il faut taper fort, il faut faire front avec nos amis. Est-ce qu'il faut quand même un peu écouter le secrétaire au Trésor américain? Cette déclaration vous a pas échappé. Le ministre des Finances conseille à tous les pays de ne pas riposter. Détendez-vous, encaissez le coup, attendez de voir comment la situation évolue, car si vous ripostez, il y aura une escalade. C'est vrai, là, on est dans une guerre, mais si la guerre grimpe encore, on peut faire pire?
Ça, c'est un discours qui s'adresserait à des défaitistes. Alors,
c'est un discours de menace.
C'est un discours de « je vous mets une bonne claque sur la joue droite, n'hésitez pas à tendre la joue gauche ». Bien, évidemment que je regrette, moi, ces tarifs, et que, il faut le dire, si on riposte, il faut le faire de manière chirurgicale, mais ouais, si on riposte, ça va pas être une bonne nouvelle.
Mais, ouais, mais face à ça... Parce qu'on va se tirer aussi un peu une balle dans le pied en ripostant.
Non, mais l'objectif, il est la désescalade. Mais si vous laissez une des parties prenantes escaladée et que vous restez les bras croisés, vous êtes mort. On est dans un nouveau monde dans lequel Donald Trump ne comprend qu'une seule chose, le rapport de force. Face à un rapport de force, il faut être fort.
Est-ce que vous diriez quand même aux entreprises françaises, attention, ça va secouer fort, pour contourner les taxes, allez vous installer aux États-Unis?
Mais en fait, c'est le risque un peu de désunion, il est plus là. Moi, je comprends des entreprises américaines, françaises, pardon, présentes aux États-Unis. Oui. J'en ai rencontré la semaine dernière à Washington, qui sont déjà installées, qui disent, moi, je vais accroître mes capacités de production. Je le comprends. Mais le cavalier seul ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que ce qu'on perdra d'un côté, on ne le gagnera pas de l'autre.
Roland Lescure, vous avez employé le mot de guerre à plusieurs reprises. Hein. C'est ce qu'on constate ce matin. La guerre commerciale est déclarée. Est-ce qu'il y a un moyen de revenir à des relations apaisées ou est-ce qu'il faut se dire qu'on en a pour 4 ans comme ça?
Mais il faut... Alors, vous avez raison, ça fait à peine 80 jours qu'il est là. On a l'impression donc, qu'il est là depuis une éternité.
Il reste 4 ans.
Donc on espère qu'on va trouver un modus vivendi un peu plus durable. Il est... convaincu par une chose aujourd'hui, il faut qu'il monte des résultats sur le premier trimestre. Donc, il fait feu de tout bois, il tire dans tous les sens. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas sûr que un des thermomètres favoris des États-Unis, qui sont la bourse américaine, achète cette politique. On a eu
Tout à l'heure.
Oui, mais enfin, les marchés...
Les marchés asiatiques sont pas contents.
Sont pas contents, on perd 3-4% au Japon. Ce qu'on appelle les indices futurs, c'est-à-dire les indices de la bourse américaine qui sont négociés après la fermeture, étaient en baisse de 2%. Et j'allais dire, les marchés sont parfois un peu fous. Là, en l'occurrence, ils sont assez raisonnables et ils réagissent comme on doit réagir. C'est-à-dire, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris pour les États-Unis.
Merci Roland Lescure d'être venu ce matin sur RFI. Bonne journée.
Bonne journée.
Roland Lescure, député Ensemble pour la République des Français d'Amérique du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale avec Arnaud Pontus. Restez avec nous sur RFI dans une minute, c'est le retour de l'actualité africaine.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la sexologue de l'émission Noël Kayarsi répond en direct à vos questions.
Demain,
émission Questions de femmes, comment gérer ses émotions?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières,
Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion du festival Quai du Polar qui se tient tout le week-end à Lyon, je reçois l'une des invitées, l'écrivaine américaine Lisa Gardner, dont le nouveau roman policier raconte une randonnée cauchemardesque en forêt où tous ne rentreront pas vivants. Un thriller intitulé « Dernière soirée ».
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.